VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h à Abidjan, 20h à Bujumbura. Dans une dizaine de minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais tout d'abord, le journal. L'enquête sur les attentats de Paris, 2 tués et 7 personnes interpellées. Tel est le bilan de l'attaque spectaculaire des forces spéciales françaises ce matin contre un repère de djihadistes à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Les enquêteurs ont de quoi faire des progrès dans leur investigation, nous dit notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
C'est aux environs de 4h30 du matin, heure française, que les habitants de la commune de Saint-Denis se réveillent au son des tirs nourris échangés entre les forces spéciales et un groupe de personnes. Ces individus sont retranchés dans un appartement du centre-ville et très vite, une première forte détonation est entendue. Une femme kamikaze vient d'actionner sa ceinture d'explosifs. Une autre personne présente dans l'appartement est décédée, tuée par un sniper. L'assaut, extrêmement violent, a duré en tout près de 7 longues heures. Les hommes du raid ont alors procédé à plusieurs arrestations, 7 au total, et parmi les personnes interpellées, les policiers auraient arrêté le commanditaire présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud. Ce djihadiste belge, sous le coup d'un mandat d'arrêt international et compensé en Syrie, était la cible de l'assaut des forces antiterroristes à Saint-Denis, au nord de Paris. Pour le moment, les autorités n'ont pas formellement identifié Abdelhamid Abaoud, mais si tel était le cas, cette capture serait une évolution considérable dans l'enquête, alors que l'ennemi public numéro 1, Salah Abdeslam, est toujours en fuite. À Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Pour un coup de projecteur sur les réactions aux événements de Saint-Denis, Idriss Fall a contacté un résident musulman de la localité, Mohamed Henish.
Le cauchemar qui est en train de continuer, on ne croyait pas l'information puisque les gens nous ont appelés pour dire qu'il y a un raid violent à Saint-Denis où nous sommes. Ben, il a fallu qu'on ouvre la télé tôt le matin, à 7h du matin, pour voir que juste à côté, chez nous, il y a un acte violent dans notre ville. Vraiment, on dirait que c'est un film hollywoodien qui continue à tourner. Les gens actuellement ne réalisent pas que c'est du vrai.
Maintenant, est-ce que les gens ont peur? Est-ce que vous êtes restés enfermés chez vous ou bien?
Tout à fait, personne ne sortait. Toute la matinée, les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants, donc, il n'y avait pas d'école. Les métros, les bus, on était barricadés chez nous à la maison. On regardait la télé. C'est à peu près vers 11h midi qu'on a pu sortir de la maison. Vraiment, pour les enfants, pour les gens, c'est vraiment traumatisant.
Mohamed Henish, un résident musulman de Saint-Denis en France. Afrique maintenant, Nigeria. La lutte contre les islamistes de Boko Haram a été minée par la corruption au sein même de l'armée nigériane. C'est le regret exprimé par le président nigérian Muhammadu Buhari après avoir reçu le rapport d'une commission spéciale sur ce dossier. Par ailleurs, une forte explosion attribuée à Boko Haram s'est produite aujourd'hui sur un marché de téléphones portables de Kano dans le nord, au lendemain d'une attaque sanglante hier soir dans la même région. Jacques Aristide.
Oui, au moins 32 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe sur un parking pour poids lourds à Yola, dans le nord-est du Nigeria. Une région qui est le théâtre depuis 2009 de l'insurrection du groupe islamiste qui a fait quelque 17 000 morts depuis 6 ans. D'où la colère du président Buhari hier soir en prenant connaissance du rapport sur la corruption. Un document qui révèle plusieurs transactions financières illicites et frauduleuses, mettant notamment en cause le bureau du conseiller à la sécurité nationale. L'ancien titulaire Sambo Dasuki, homme clé du régime de l'ex-président Goodluck Jonathan et qui a été limogé en juillet dernier, est déjà inculpé de blanchiment d'argent tel que le rapporte l'AFP. Le président Buhari veut que tous ceux impliqués dans des contrats frauduleux d'achat d'armes et d'équipements qui représentent plusieurs milliards de dollars rendent des comptes.
Coup d'État manqué au Burkina Faso, l'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassolé et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro ont tous deux démenti catégoriquement par le biais de leur porte-parole être impliqués dans un enregistrement téléphonique controversé concernant le putsch raté de septembre à Ouagadougou. La conversation est présentée comme étant celle de M. Soro avec le général Bassolé, actuellement accusé de haute trahison et détenu dans le pays. Et les deux hommes auraient évoqué la possibilité possibilité de soutenir le putsch en cours. L'enregistrement est d'autant plus commenté au Burkina et en Côte d'Ivoire que le domicile de M. Soro à Ouagadougou a été perquisitionné dans le cadre de l'enquête de la justice militaire burkinabé sur le coup d'État. Pour leur part, les proches de Guillaume Soro qualifient l'enregistrement de manipulation et de coup bas. Par ailleurs, Guillaume Soro a été convoqué par la justice française suite à une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. M. Soro a toutefois démenti Eddie Sango.
D'après des sources judiciaires françaises, la juge d'instruction Sabine Kéris avait convoqué M. Guillaume Soro le 24 novembre suite à la plainte de Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. M. Soro a démenti auprès de l'AFP avoir reçu une convocation. Il a précisé que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ne peut répondre à une convocation qui ne lui est pas parvenue. Il ajoute que les ministères ivoiriens de la justice et des affaires étrangères n'ont jamais été saisis des commissions rogatoires internationales pour qu'il soit entendu dans cette affaire. Accusé du complot, Michel Gbagbo avait été capturé le 11 avril 2011 avec son père Laurent Gbagbo. Il a été remis en liberté provisoire en juillet 2013. Ses citoyens franco-ivoiriens avaient porté plainte en 2012 en France contre Guillaume Soro et les Comzones.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, la violence continue à s'accentuer à Bujumbura, la capitale. Une personne a été tuée et deux autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi lors d'accrochages violents entre les forces de sécurité et des éléments armés que la police qualifie d'insurgés. Des précisions avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les Nations Unies, par la voix du coordonnateur résident, ont encore une fois réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies en tant que partenaire impartial et de confiance à continuer à œuvrer pour le bien-être du peuple burundais. Cette œuvre passera par le développement et la mise en œuvre des politiques nationales afin de répondre plus efficacement aux défis humanitaires de consolidation de la paix et de développement auquel le pays est confronté. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2248 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 12 novembre dernier confirme cette mission. Le chef de mission AI de la MEUNIB estime quant à lui que le travail de cette mission d'observation pourra éclairer à l'avenir la suite du dialogue sous les auspices de la communauté est-africaine et de la Commission nationale du dialogue inter-burundais avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi. Le secrétaire général des Nations Unies a réaffirmé que les Nations Unies resteront inébranlables dans leur soutien au peuple et au gouvernement burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Afrique du Nord, le ministre libyen des Affaires étrangères alerte la communauté internationale. Mohamed Dahiri avertit que son pays risque de devenir le nouveau sanctuaire du groupe État islamique, l'EI. La lutte contre les djihadistes de l'EI doit tenir compte de la Libye, dit-il. Plus de détails avec Eric Manira Kiza.
Selon le patron de la diplomatie libyenne, cité par l'AFP, le groupe État islamique est en train de renforcer sa présence dans son pays. Le commandement de ce groupe djihadiste envoie les nouvelles recrues vers la Libye et non plus la Syrie, a déclaré Mohamed Dahiri de passage à Paris ce mardi. Il ajoute que les combattants se comptent entre 4000 et 5000, formés essentiellement de Tunisiens, de Soudanais et de Yéménites. Il implore la communauté internationale à agir vite pour épargner de la Libye qu'elle ne devienne pas le prochain sanctuaire de Daesh. Selon lui, une action contre l'État islamique s'impose en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye. Le groupe extrémiste contrôle déjà la ville de Sirte et est implanté dans plusieurs régions comme Derna et Benghazi dans l'est du pays, a-t-il précisé.
Les frappes aériennes menées par la France et la Russie au cours des dernières 72 heures dans le nord de la Syrie ont causé la mort de 33 djihadistes du groupe État islamique. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Russie et la France ont multiplié les raids contre Raqqa, capitale de facto de l'EI en Syrie, après les attentats meurtriers de Paris de vendredi dernier et puis l'attentat contre un avion russe qui s'est écrasé le 31 octobre dans le Sinaï égyptien. Deux attaques revendiquées par le groupe djihadiste. Et pour terminer, le Sénat américain à majorité républicaine a adopté mardi deux résolutions annulant les réglementations phares du gouvernement de Barack Obama pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. Deux législations auxquelles le président Obama va opposer son veto. Le vote visait avant tout à officialiser l'hostilité de la majorité républicaine aux initiatives de Barack Obama pour lutter contre le changement climatique. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.